11. Une affaire douloureuse. Mr. James Duffy vivait à Chapelizod parce qu'il désirait vivre le plus loin possible de la cité dont il était citoyen et qu'il trouvait tous les autres faubourgs de Dublin d'une affreuse et prétentieuse modernité. Il vivait dans une vieille maison très sombre dont les fenêtres donnaient sur la distillerie abandonnée et plus loin sur le bord de la rivière peu profonde dans laquelle Dublin s'enracine. Les hauts murs de sa chambre sans tapis n'étaient décorés par aucun cadre. Il avait acheté lui-même chaque meuble de la pièce, un chalet en fer forgé, une toilette en acier, quatre chaises canées, une penderie, un seau à charbon, un garde-feu et des chenets, ainsi qu'une table carrée garnie d'un double pupitre. Une bibliothèque avait été arrangée dans une alcôve à l'aide d'étagères de bois blanc. Le lit avait des draps blancs, et un édredon noir et rouge en couvrait le pied. Un petit miroir à main était suspendu au-dessus de la toilette, et pendant la journée, une lampe à l'abat-jour blanc constituait le seul ornement du manteau de la cheminée. Les livres sur l'étagère étaient rangés de bas en haut en fonction de leur volume. Des œuvres complètes de Wordsworth étaient posées d'un côté de l'étagère la plus basse, et un exemplaire du catéchisme de Maynooth, enveloppé d'un protège-cahier, trônait à l'autre bout sur l'étagère du haut. Un nécessaire à écrire traînait toujours sur le bureau. Sur le pupitre reposait une traduction manuscrite du Michael Kramer de Hauptmann, avec les indications de scène écrites à l'encre rouge, ainsi qu'une petite liasse de feuilles tenues par un trombone. Sur ces feuilles, une phrase apparaissait de loin en loin, et, dans un moment d'ironie, le slogan d'une publicité pour des pilules contre la bile avait été collé sur la première page. Si on soulevait le couvercle du pupitre, il s'en dégageait une vague senteur, le parfum de cèdre des crayons neufs, ou celui d'un pot de colle ou d'une pomme blette qu'on avait oubliée là. Mr. Duffy avait en horreur tout ce qui impliquait le moindre désordre physique ou mental. Un médecin médiéval l'eût appelé saturnien. Son visage, qui arborait toute l'histoire de ces années, était de la teinte brune des rues de Dublin. Sur sa longue et assez large figure poussait un poil sec et noir, et sa moustache fauve parvenait mal à recouvrir une bouche revêche. Ses pommettes donnaient également de la dureté à son physique, mais il n'y avait pas de dureté dans ses yeux, qui, regardant le monde à travers leurs sourcils fauves, donnaient l'impression d'un homme qui, toujours enclin à trouver chez les autres de quoi les racheter, était bien souvent déçu. Il vivait à distance de son corps, regardant ses propres actes comme à travers des lunettes douteuses. Il avait une étrange manie autobiographique qui consistait à composer, de temps en temps dans sa tête, une courte phrase à propos de lui-même contenant un sujet à la troisième personne et un prédicat toujours au passé. Il ne donnait jamais l'aumône aux mendiants et marchait avec fermeté en s'appuyant sur une canne de noisetier. Il était depuis de nombreuses années le caissier d'une banque privée sur Bagot Street. Chaque matin, il venait de Chapelizod par le tram. À midi, il allait chez Dan Burks et prenait son déjeuner, une bouteille de bière et une petite assiette de biscuits sablés. À 4 heures, il était libre. Il dînait dans un restaurant de St. George Street où il se sentait à l'abri de la jeunesse dorée de Dublin et où le menu était franc et honnête. Ses soirées, il les passait soit devant le piano de sa logeuse, soit à flâner dans les faubourgs de la cité. Son goût pour la musique de Mozart l'entraînait parfois à l'opéra ou à un concert. C'étaient là les seules dissipations de sa vie. Il n'avait ni camarades, ni amis, ni église, ni foi. Il vivait sa vie spirituelle sans communier avec les autres, visitant ses parents à Noël et les escortant au cimetière quand il mourait. Il s'acquittait de ses deux tâches sociales dans un souci de tradition et de dignité, mais ne concédait rien de plus aux conventions qui réglaient la vie civile. Il s'autorisait à penser que dans d'autres circonstances, il eût braqué sa banque, mais comme ces circonstances ne se présentèrent jamais, sa vie se déroulait uniformément, une histoire sans aventure. Un soir, il se retrouva à côté de deux dames à la rotonde. L'établissement, peu fréquenté et silencieux, donnait une sensation pénible de faillite imminente. La dame, qui était assise à côté de lui, regarda une fois ou deux tout autour de l'établissement déserté puis dit « Quel dommage qu'il y ait si peu de monde ce soir. C'est tellement difficile pour les gens de chanter devant des bancs vides. » Il prit sa remarque comme une invitation à parler. Il fut surpris qu'elle fût si à l'aise. Tandis qu'il bavardait, il essaya de la fixer dans sa mémoire de manière permanente. Quand il apprit que la jeune fille à côté d'elle était sa fille, il songea qu'elle devait avoir 1 ou 2 ans de moins que lui. Son visage, qui devait avoir été beau, était resté intelligent. C'était un visage ovale, avec des formes accusées. Les yeux étaient fixes et d'un bleu très sombre. Leur regard commençait sur une nuance de défi, mais cette impression était atténuée par ce qui semblait être un évanouissement délibéré de la pupille dans l'iris, qui trahissait un tempérament d'une grande sensibilité. La pupille se remettait en place presque aussitôt, cette nature à demi exhibée retombait sous le règne de la prudence, et sa veste d'astrakhan, moulant une poitrine généreuse, ramenait définitivement à la nuance de défi initiale. Il la rencontra à nouveau quelques semaines plus tard, à un concert à Earlsford Terrace, et il profita des moments où l'attention de sa fille était attirée ailleurs pour se lier d'amitié avec elle. Elle fit allusion une fois ou deux à son mari, mais son ton n'était pas celui d'une mise en garde. Elle s'appelait Mrs. Sinico. L'arrière-arrière-grand-père de son mari venait de Leghorn. Son mari était capitaine d'un navire marchand, naviguant entre Dublin et la Hollande, et ils avaient un seul enfant. En la rencontrant une troisième fois par hasard, il trouva le courage de lui donner un rendez-vous. Elle vint. Ce fut la première d'une longue liste de rencontres. Ils se voyaient toujours dans la soirée et choisissaient les quartiers les plus calmes pour se promener ensemble. Toutefois, l'esprit de cachotterie était étranger à Mr. Duffy, et voyant qu'ils étaient obligés de se voir à la dérobée, il força sa compagne à le recevoir chez elle. Le capitaine Sinico encouragea ses visites, persuadé qu'il était question de la main de sa fille. Il avait si sincèrement bouté sa femme hors de sa galerie de plaisir qu'il ne pouvait soupçonner quiconque d'éprouver de l'intérêt pour elle. Comme le mari était souvent absent et la fille souvent en train de donner des leçons de musique à l'extérieur, Mr. Duffy eut largement l'occasion de profiter de la société de la dame. Ni lui ni elle n'avaient jamais eu une telle aventure auparavant, et aucun ne ressentait la situation comme incongrue. Petit à petit, il attacha ses pensées aux siennes. Il lui prêta des livres, lui fournit des idées, partagea sa vie intellectuelle avec elle. Elle écoutait tout. Parfois, pour répondre à ses théories, elle dévoilait un fait de sa propre vie. Avec une sollicitude presque maternelle, elle le pressait de s'ouvrir et d'exprimer sa nature. Elle devint son confesseur. Il lui dit que pendant un temps, il avait assisté au meeting d'un parti socialiste irlandais, où il s'était senti bien singulier, au milieu d'un tas d'ouvriers sobres qui se réunissaient dans un grenier éclairé par une lampe à huile inefficace. Quand le parti s'était subdivisé en 3 sections, chacune avec son propre leader et son propre grenier, son assiduité s'était relâchée. Les discussions des ouvriers, disait-il, étaient trop timorées. L'intérêt qu'ils prenaient à la question des salaires était excessif. Il avait l'impression qu'ils étaient des pragmatiques, endurcis, et qu'ils lui enviaient sa rigueur intellectuelle, produit d'un loisir qui n'était pas dans leurs moyens. « Aucune révolution sociale, lui dit-il, n'était à craindre pour Dublin avant des siècles. » Elle lui demanda pourquoi il n'écrivait pas toutes ses idées. « Pourquoi donc ? » lui demanda-t-il avec un dédain calculé. « Pour faire de la concurrence aux beaux parleurs, incapables de soutenir une pensée pendant plus d'une minute ? Pour se soumettre aux critiques d'une classe moyenne obtuse qui confiait sa moralité aux policiers et ses beaux-arts aux impresarios ?» Il se rendait souvent au petit cottage de Mrs. Sinico, à l'extérieur de Dublin. Souvent, ils y passaient leurs soirées, seuls. Petit à petit, comme leurs pensées s'entremêlaient, ils parlèrent de sujets qui les touchaient de plus près. La compagnie de Mrs. Sinico était pour lui comme un terreau chaud et fertile pour une plante exotique. Bien des fois, elle laissa l'obscurité se pencher sur eux en évitant d'allumer la lampe. La pièce sombre et discrète, leur solitude, la musique qui vibrait encore à leurs oreilles les unissaient. Cette union exaltait Mr. Duffy, amollissait les aspects brutaux de son tempérament, apportait de l'émotion à sa vie mentale. Il pensait qu'à ses yeux de femme, il monterait les degrés jusqu'à atteindre une stature d'ange. Et tandis qu'il attirait sa fervente compagne de plus en plus près de lui, il entendait en même temps une voix étrange et impersonnelle, qu'il savait être la sienne, qui insistait sur l'incurable solitude de l'âme. « Nous ne pouvons nous donner, » disait la voix, « nous sommes seuls. » Ces discours aboutirent à ce qu'un soir, après avoir montré tous les symptômes d'une excitation inhabituelle, Mrs. Sinico saisit sa main avec passion et la porta à sa joue. Mr. Duffy fut extrêmement surpris. L'interprétation que cette femme faisait de ses discours rompit tout le charme. Il ne vint pas la voir pendant une semaine, puis il lui écrivit pour lui demander un rendez-vous. Comme il ne souhaitait pas que cette dernière rencontre soit sous le signe de leur confessionnal désormais dévasté, ils se rencontrèrent dans une petite pâtisserie à côté de Park Gate. C'était par un temps froid d'automne, mais en dépit du froid, ils parcoururent les allées du parc en long et en large pendant presque 3 heures. D'un commun accord, ils décidèrent de cesser leurs entrevues. Tout lien, disaient-ils, est un lien de douleur. Quand ils sortirent du parc, ils marchèrent en silence en direction du tram, mais alors elle commença à trembler si violemment que, de peur de la voir à nouveau s'évanouir, il lui dit au revoir rapidement et la laissa. Quelques jours plus tard, il reçut un paquet contenant ses livres et ses partitions. 4 ans passèrent. Mr. Duffy était revenu au cours uniforme de sa vie. Sa chambre portait toujours le fidèle témoignage de la discipline de son esprit. Quelques nouvelles partitions encombraient le lutrin dans la pièce du bas, et dans ses étagères il y avait 2 volumes de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra et Le Gai Savoir. Il écrivait rarement dans la liasse de papier qui reposait sur son bureau. Une des phrases, écrite 2 mois après sa dernière rencontre avec Mrs. Sinico, disait « L'amour entre 2 hommes est impossible, car il ne doit pas y avoir de rapport sexuel entre eux, et l'amitié entre un homme et une femme est impossible, parce qu'il doit y en avoir. » Il se tint éloigné des concerts où il aurait pu la rencontrer. Son père mourut, l'associé junior de sa banque se retira, et toujours, chaque matin, il se rendait à la ville par le tram, et chaque soir, rentrait à pied après avoir dîné frugalement sur George Street, et lut le journal du soir en guise de dessert. Un soir, alors qu'il était sur le point de mettre un morceau de corned beef et de chou dans sa bouche, sa main s'arrêta. Ses yeux s'étaient fixés sur un paragraphe du journal du soir qu'il avait déplié contre la carafe d'eau. Il replaça le morceau de nourriture dans son assiette et lut attentivement l'entrefilet. Puis il but un verre d'eau, poussa son assiette de côté, installa le journal sur la table devant lui et relut, encore et encore, l'entrefilet. Le chou commençait à déposer de la graisse blanche et froide sur son assiette. La serveuse vint pour lui demander si le dîner n'était pas bien cuit. Il dit que c'était très bon et mangea quelques bouchées supplémentaires avec difficulté. Puis il paya l'addition et sortit. Il marcha, à pas rapides, à travers le crépuscule de novembre, son bâton de noisetier frappant le sol avec régularité, le bord du buff mail dépassant d'une poche latérale de son manteau boutonné serré. Sur le chemin solitaire qui mène de Park Gate à Chapelizod, il ralentit le pas. Son bâton frappait le sol avec moins d'emphase, et son souffle irrégulier, qui sonnait presque comme un sanglot, se condensait dans l'air glacial. Quand il atteignit la maison, il monta directement dans sa chambre et, retirant le papier de sa poche, relut le paragraphe à la lumière déclinante de la fenêtre. Il ne le lut pas à haute voix, mais en remuant les lèvres, comme le fait un prêtre quand il lit les prières secrètes. Voici le paragraphe. Mort d'une femme à Sydney Parade, une affaire douloureuse. Aujourd'hui, à l'hôpital de la ville de Dublin, l'officier de police suppléant, en l'absence de Mr. Leverett, a enquêté sur le corps de Mrs. Emily Sinico, âgée de 43 ans, qui a été tuée à la gare de Sydney Parade hier au soir. Les preuves matérielles montrent que la défunte dame, comme elle tentait de traverser les voies, a été heurtée par l'omnibus de 22 heures qui venait de Kingstown et a de ce fait subi des blessures à la tête et sur le côté droit qui ont entraîné sa mort. James Lennon, conducteur de l'engin, a déclaré qu'il était employé au chemin de fer depuis 15 ans. En entendant siffler le chef de gare, il a fait démarrer le train et, une seconde ou deux plus tard, l'a arrêté en réaction à des cris aigus. Le train roulait lentement. Pete Dunne, bagagiste des chemins de fer, a déclaré avoir vu, au moment où le train démarrait, une femme qui essayait de traverser les voies. Il a couru vers elle et crié pour l'avertir, mais avant qu'il puisse l'atteindre, elle a été fauchée par le pare-choc de la locomotive et est tombée sur le sol. Un juré. Vous avez vu tomber la dame ? Le témoin. Oui. Selon la déposition du sergent de police Crowley, il a trouvé en arrivant la défunte étendue sur le quai avec toutes les apparences de la mort. Il a fait porter le corps dans la salle d'attente en attendant l'ambulance. L'agent de police numéro 57 a corroboré. Dr Halpin, assistant chirurgien à l'hôpital de la ville de Dublin, a déclaré que la défunte avait deux côtes fracturées en bas et des contusions sévères à l'épaule droite. Le côté droit de la tête a été blessé pendant la chute. Les blessures n'étaient cependant pas de nature à causer la mort d'une personne normale. La mort, à son avis, a été plutôt due au choc et à un arrêt soudain de l'action du cœur. Mr. H.B. Patterson Finlay, représentant la compagnie des chemins de fer, a exprimé ses profonds regrets suite à l'accident. La compagnie a toujours pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher les gens de traverser les lignes en dehors des ponts, à la fois en plaçant des pancartes à chaque gare et par l'utilisation de grilles automatiques au passage à niveau. La défunte avait l'habitude de traverser les voies, tard dans la nuit, d'un quai à l'autre, et au vu de certaines circonstances de l'affaire, il ne juge pas que la compagnie de chemin de fer soit à blâmer. Le capitaine Sinico, de Léoville, Sydney Parade, mari de la défunte, a donné également son témoignage. Il a confirmé que la défunte était son épouse. Il n'était pas à Dublin au moment de l'accident et n'est arrivé que le lendemain matin de Rotterdam. Ils étaient mariés depuis 22 ans et avaient vécu heureusement jusqu'à il y a environ 2 ans, période à laquelle sa femme avait commencé à faire des excès. Miss Marie Sinico a déclaré que feu sa mère avait pris l'habitude de sortir le soir pour acheter de l'alcool. Témoin impuissante, elle avait essayé de raisonner sa mère et l'avait poussée à rejoindre la Ligue. Ce soir-là, elle n'est rentrée à la maison qu'une heure environ après l'accident. Le jury a rendu un verdict en accord avec les preuves médicales et a exonéré Lennon de tout blâme. L'officier de police suppléant a dit qu'il s'agissait d'une affaire très douloureuse et a exprimé sa profonde sympathie au capitaine Sinico et à sa famille. Il a demandé instamment à la compagnie de chemin de fer de prendre des mesures fortes pour empêcher tout accident similaire à l'avenir. Personne n'est jugé responsable. Mr. Duffy leva les yeux du papier et regarda par la fenêtre le paysage froid du soir. La rivière coulait tranquille à côté de la distillerie vide, et de temps en temps une lumière apparaissait dans une maison de Lucan Road. Quelle fin ! Tout le récit de cette mort le révoltait, et cela le révoltait également de penser qu'il lui était arrivé de dire à cette femme des choses qu'il tenait pour sacrées. Son estomac était ulcéré par les phrases rebattues, les condoléances creuses, les précautions oratoires du reporter destinées à cacher les détails d'une mort vulgaire et commune. Non seulement elle s'était dégradée elle-même, mais elle l'avait dégradé, lui. Il voyait le développement sordide de son vice, misérable et malodorant. Son âme sœur. Il songea au gueux titubant qu'il avait si souvent vu apporter des pots et des bouteilles afin que le barman les remplisse. Juste ciel, quelle faim ! Manifestement, elle n'était pas faite pour vivre, sans aucune force de caractère, une proie facile à toutes les addictions, l'un des écueils sur lesquels la civilisation se heurte. Mais qu'elle ait pu descendre aussi bas ! Était-il possible qu'il se soit à ce point trompé à son sujet ? Il se souvint de son éclat cette nuit-là et l'interpréta de manière beaucoup plus sévère. Il n'éprouvait plus aucune difficulté à se féliciter des choix qu'il avait faits. Comme la lumière tombait et que sa mémoire commençait à vagabonder, il crut sentir sa main de femme qui touchait la sienne. Le choc qui avait d'abord atteint son estomac ébranlait maintenant ses nerfs. Il enfila rapidement son manteau et son chapeau et sortit. L'air froid l'accueillit sur le seuil, il s'insinua dans les manches de son manteau. Quand il arriva au pub de Chapelizod Bridge, il entra et commanda un punch chaud. Le propriétaire le servit avec obséquiosité, mais ne s'aventura pas à lui parler. Il y avait 5 ou 6 ouvriers dans l'établissement qui discutaient de la valeur du bien d'un gentleman dans Kildare County. Ils buvaient, à intervalles réguliers, à leurs énormes chopes de bière et fumaient, crachant souvent sur le sol et recouvrant parfois de sable leur crachat du bout de leurs lourdes bottes. Mr. Duffy s'assit sur sa banquette et les regarda sans les voir et sans les entendre. Ils sortirent peu de temps après et il commanda un deuxième punch. Il resta un long moment devant son verre. L'établissement était très calme. Le propriétaire était affalé sur le comptoir et lisait le Herald en bâillant. De loin en loin, on entendait un tram qui filait à travers la route solitaire, au dehors. Comme il était assis là, repassant les souvenirs de sa vie avec elle et évoquant, en alternance, la seconde image dégradée qu'il avait maintenant d'elle, il prit conscience qu'elle était morte, qu'elle avait cessé d'exister, qu'elle était devenue un souvenir. Il commença à éprouver un malaise. Il se demanda ce qu'il aurait pu faire d'autre. Il n'aurait pas pu soutenir la farce d'un adultère avec elle, et il n'aurait pas pu vivre avec elle ouvertement. Il avait fait ce qui lui avait semblé le mieux. En quoi était-il à blâmer? Maintenant qu'elle était partie, il comprenait à quel point sa vie avait dû être solitaire, assise, soir après soir, toute seule, dans cette pièce. Sa vie à lui serait solitaire aussi, jusqu'à ce qu'il meure à son tour, qu'il cesse d'exister, qu'il devienne un souvenir, si toutefois quelqu'un se souvenait de lui. Il était plus de 9 heures du soir quand il quitta le pub. La nuit était froide et triste. Il entra dans le parc, par la première grille, et marcha le long des arbres squelettiques. Il marcha à travers les allées désolées où ils avaient marché ensemble 4 ans auparavant. À certains moments, il avait l'impression d'entendre sa voix qui frôlait son oreille, sa main qui touchait la sienne. Il se tenait immobile, à l'écoute. Pourquoi avait-il pris sa vie? Pourquoi l'avait-il condamné à mort? Il sentait sa nature morale voler en éclats. Quand il gagna la crête de Magazine Hill, il s'arrêta et regarda le long de la rivière en direction de Dublin, dont les lumières brillaient, rouges et hospitalières dans cette froide nuit. Il regarda en bas, et à la base de la pente, dans l'ombre du mur du parc, il vit des silhouettes humaines couchées. Ses amours vénales et furtives le remplissaient de désespoir. Il remâchait la rectitude de son existence, il avait l'impression d'avoir été banni du festin de la vie. Un unique être humain avait semblé l'aimer, et il lui avait interdit de vivre et d'être heureuse, il l'avait condamné à l'ignominie, à une mort honteuse. Il savait que les créatures vautrées au pied du mur le regardaient et attendaient qu'il parte. Personne ne voulait de lui, il était un banni du festin de la vie. Il tourna les yeux vers la rivière grise miroitante qui ondulait vers Dublin. De l'autre côté, il vit un train de marchandises qui serpentait depuis la gare de Kingsbridge, tel un ver doté d'une tête féroce avançant dans les ténèbres, laborieux et obstiné. Le train passa, lentement, en dehors de son champ de vision, mais il pouvait encore entendre dans ses oreilles le bourdonnement laborieux du moteur qui répétait inlassablement les syllabes de son nom à elle. Il fit demi-tour pour revenir d'où il venait, le rythme du moteur martelant ses oreilles. Il commença à douter de la réalité de ce que sa mémoire lui disait. Il s'arrêta sous un arbre et laissa le rythme mourir au loin. Il ne la sentait plus à ses côtés dans le noir, ni n'entendait sa voix frôler son oreille. Il attendit quelques minutes, à l'écoute. Il n'entendait absolument rien. La nuit était parfaitement silencieuse. Il écouta encore, parfaitement silencieuse. Il sentit qu'il était seul.